Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il ne fera plus écran au petit vent frais du matin. On peut donc désormais se passer de masque à l'extérieur. Compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire, la mesure d'abord envisagée pour l'été a été avancée.
Bonjour Caroline Baudry.
Bonjour.
Vous êtes près de la gare Saint-Lazare, à Paris, pour Europe 1, où les voyageurs que vous avez croisés préfèrent rester prudents.
Et oui, c'est assez frappant ce matin. Les habitudes sont bien ancrées sur le parvis de cette gare très fréquentée. La majorité des gens gardent leur masque à l'arrêt de bus juste devant moi. Tout à l'heure, tous lavés. Certains par oubli, d'autres par choix, comme François, 58 ans.
Je pense qu'on n'est pas vraiment sorti de la situation, qu'il risque d'y avoir des rebonds. Je pense que c'est un peu tôt pour se réjouir de la disparition de ce virus. Je pense pas qu'il disparaisse comme ça.
Et puis il y a ceux qui l'ont rangé dans leur poche, accroché à leur coude. Difficile de rater leur sourire. Ce matin-là, Samy l'attend depuis un an et demi. C'est la première chose à laquelle il a pensé en se réveillant ce matin.
Là, aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, je suis libre. On n'a plus cette sensation d'être en infraction tout le temps. C'est plaisant. Et quand je vais rentrer sur cette porte, là, je dois le porter. Là, c'est obligatoire.
Le masque reste obligatoire dans les transports en commun, les lieux clos et en extérieur, dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les files d'attente.
Étonnant de voir que certains préfèrent le garder encore. Caroline Baudry, vous-même, vous êtes masquée ce matin pour votre direct ?
Non, pas de masque
non.
Pour ce direct.
On a tombé le masque. Caroline Baudry aux abords de la gare Saint-Lazare à Paris en direct.
Dimanche, c'est le couvre-feu qui sera levé. Et si la France sourit, la Russie, elle, sévit. Obligation de vaccination pour les personnels du secteur des services à Moscou et dans sa région.
Après l'annulation des épreuves l'an dernier, un baccalauréat hybride cette année. Si le contrôle continu sera prépondérant, les élèves de terminale vont tout de même devoir plancher, et ce, dès aujourd'hui.
Deux épreuves maintenues, le grand oral et l'écrit de philosophie, un écrit qui commence dans une heure et pour beaucoup, sans stress, d'autant qu'entre le contrôle continu et la note obtenue ce matin, c'est le meilleur résultat qui sera gardé. Pas de quoi donc se mettre la pression pour Alexia, rencontrée pour Europe 1 par Virginie Riva.
J'ai déjà mon bac parce qu'avec les notes du contrôle continu, j'ai au-dessus de 12 dans la plupart des matières, donc j'ai déjà 11,5-12 de moyenne en philo. Et comme là en philosophie, ils prennent la meilleure de nos deux notes, ça enlève un stress important. Et je trouve qu'ils auraient peut-être pas forcément dû nous le dire avant, parce qu'on est tous pas du tout angoissés.
Voilà, la sérénité donc pour Alexia. Pour ce qui est du grand oral, ce sera à partir de la semaine prochaine.
7h04 sur Europe 1. C'est un détenu qui entend faire parler de lui, Rémi Daillet, incarcéré après sa mise en examen hier pour son implication présumée dans l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges. C'était au mois d'avril dernier.
Un placement sous écrou décidé à l'issue d'une audience publique à Nancy devant les juges des libertés et de la détention, audience transformée par le complotiste en tribune politique sous les yeux de l'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur Mbaché.
Costume, cravate, regard complice pour les caméras quand il apparaît dans le box et un peu avant 21h, parole à la défense, ou plutôt le discours. Dans la salle, les gens ne savent pas encore que leurs yeux vont bientôt s'écarquiller. Rémi Daillet s'appuie sur la rambarde comme un pupitre politique. L'État français met les enfants en danger, dit celui qui, une heure plus tôt, était donc mis en examen pour avoir organisé, structuré, dirigé, dixit le parquet, le kidnapping de la petite Mia. Je n'ai jamais dit « allez kidnapper un enfant », dit-il. Je dis « prenez vos responsabilités et faites-vous aider au besoin ». Et puis la chose prend donc une tournure politique, échange de regard interrogatif entre magistrats. Vous savez, j'ai le sentiment que c'est la population entière qui est kidnappée et je me pose la question de ma candidature à la prochaine présidentielle. Un peu plus tôt, son avocat avait demandé en cas d'incarcération une détention à la prison de la santé au quartier des personnalités. Cette nuit, Rémi Daillet a dormi à la prison de Strasbourg.
Ils jettent leur dernière force dans la bataille J-3 avant le premier tour des élections départementales et régionales.
Et il y aura du monde sur le terrain. Jean Castex attendu aujourd'hui dans trois régions, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. L'écologiste Yannick Jadot en Île-de-France, le patron des Républicains, lui, sera dans les Hauts-de-France, aux côtés de Xavier Bertrand, qui continue de sillonner sa région en quête d'une réélection. Claudia Bertram l'a suivi pour Europe 1.
C'est dans un grand gymnase que Xavier Bertrand a donné rendez-vous à plusieurs dizaines d'élus locaux.
Je voulais vous expliquer de quelle façon on entend continuer à se battre pour vous, à se battre pour les Hauts-de-France.
Micro en main, il détaille ses trois grandes priorités, l'emploi, la santé et la sécurité. Tout un programme pour ne pas laisser la région au Rassemblement national. Dans un récent sondage, Xavier Bertrand est talonné par Sébastien Chenu au premier tour, mais il se veut confiant.
Comment ça se fait que, en 5 ans, le Front National a reculé de 8%. et que nous avons progressé de 10%. Il doit y avoir une explication. Peut-être qu'on s'est battu pour les gens, peut-être qu'ils le reconnaissent. Nous sommes les seuls, la seule liste qui peut empêcher le Front National de diriger cette région. Tout le monde sait bien que ce sera nous ou eux.
Et cela pourrait se jouer sur le fil au second tour où il est donné à égalité avec le RN si les listes En Marche et de gauche se maintiennent. Mais Xavier Bertrand l'assure, aucune alliance n'est envisageable.
Ça sera la même liste et le même projet au premier et au deuxième tour.
Surtout, pas question de réclamer l'aide de la majorité présidentielle alors que Xavier Bertrand veut affronter Emmanuel Macron en 2022. Mais pour ça, il doit d'abord être réélu dans sa région. Attiche, Claudia Bertram, Europe 1.
Sa région en première ligne, décidément, ce jeudi, puisqu'Emmanuel Macron y est aussi attendu. Troisième étape de son Tour de France qui le mènera notamment à Villers-Cotterêts dans l'Aisne.
Villers-Cotterêts est son château où François Ier a signé en 1539 l'ordonnance faisant du français la langue officielle du royaume. Le bâtiment fait aujourd'hui l'objet d'une importante restauration en vue d'en faire la cité internationale de la langue française. Ce matin, visite du chantier avec Océane Théard pour Europe 1.
François Ier aurait bien du mal à reconnaître son château. Le bruit des calèches a laissé place au bourdonnement des scies à bois.
On va prendre un peu de hauteur, vous allez voir sur la terrasse.
Au sommet d'un échafaudage, Xavier Bailly, l'administrateur du Centre des Monuments Nationaux, observe le chantier d'en haut.
En fait, le château est totalement emballé. On pourrait se demander s'il n'y a pas eu un artiste qui aurait mis ce château dans une grande boîte d'échafaudage et de bâches. Derrière ces bâches, les toitures ont été démontées, les charpentes ont été démontées, les murs sont mis à vif.
Une fourmilière où se croisent près de 250 ouvriers comme Robin. Perché à 15 mètres du sol sur une des cheminées, ce sculpteur ressuscite l'emblème de François Ier, la salamandre.
On a bien les dents qui sont assez pointues et qui sont effilées vers l'avant. C'est assez nerveux. Elles ont pris tous les intempéries possibles, c'est-à-dire le vent, la pluie, la grêle. Enfin, au niveau trace archéologique, c'est quasiment illisible.
La charpente n'est pas encore terminée, mais les contours de la future cité internationale de la langue française se dessinent. Après avoir servi d'hôpital militaire et d'EHPAD, le château remis à neuf devrait accueillir 200 000 visiteurs par an. Villers-Cotterêts, Océane Théard, Europe 1.
Et à l'occasion de ce déplacement à Villers-Cotterêts notamment, Emmanuel Macron va faire de la lecture une grande cause nationale. L'étonnante consigne de Gérald Darmanin à la police, le ministre de l'Intérieur demande précisément 50 opérations de contrôle dans les quartiers les plus touchés par des rodéos urbains, avec saisie des deux roues impliquées et déclenchement de poursuites pénales.
Enfin, direction Budapest, où l'équipe de France affrontera après-demain la Hongrie pour son deuxième match de l'Euro de football.
Et il va falloir se préparer, car à Budapest, aucune jauge n'a été fixée. Le stade affichera complet, ambiance garantie, comme en témoigne l'envoyé spécial d'Europe 1, Simon Rubin.
Les Bleus ne sont assurément pas préparés à ce qui les attend dans l'antre de la sélection hongroise samedi. Après un an et demi de pandémie, ils vont tous retrouver pour la première fois un stade plein. On ne parle pas de 20 000 personnes comme à Munich, non. Samedi, ils seront 68 000 dans un stade à l'acoustique exceptionnelle. Dans les tribunes, quasiment que des supporters hongrois, évidemment. Et ça donne ça. Des chants incessants pendant tout le match. Sans conteste, Budapest, c'est la plus grosse ambiance de l'Euro. Même les supporters en tribune lors du premier match en Hongrie, comme Norbert, ont été surpris d'une telle énergie.
J'étais surpris qu'avec le Covid, tant de monde se retrouve ici au stade. L'ambiance était géniale. C'est dommage qu'on soit nul, mais 97% du stade, c'était des supporters hongrois. Et c'est ça qui compte.
Alors un tel public peut-il avantager la Hongrie? D'après les études réalisées, pas du tout. En revanche, et toujours d'après des études récentes, oui, cela pourrait avoir une influence sur l'arbitrage.
Simon Rubin à Budapest pour Europe 1. Notez qu'hier, l'Italie a été la première à décrocher son ticket pour les huitièmes de finale. Victoire face à la Suisse 3-0.
Merci Marion Calais, impressionnante. L'Italie pour le coup sur ces deux matchs, on ne va pas la croiser trop tôt. Merci Marion Calais, il est 7h10 sur Europe 1.